Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le roman Ulysse de James Joyce vous a peut-être semblé trop dense ou trop long. Vous n'osiez pas l'aborder ou vous avez coulé dans votre lecture. Dans une heure, vous en saurez un peu plus sur les moyens d'entrer dans cette œuvre.
Sans oser le demander, Romain de Bec de Lièvre.
Une émission proposée aujourd'hui par Lila Bozès, Lise Combe et Brian Berkey. En majesté, dodu, Buck Mulligan émergea de l'escalier, porteur d'un bol de mousse à raser sur lequel un miroir et un rasoir reposaient en croix. Ainsi s'ouvre l'un des très grands romans du début du XXe siècle, Ulysse de James Joyce. Il a été publié en février 1922, c'est-à-dire il y a bientôt un siècle. Mais 100 ans, 100 jours, 100 secondes ne changent pas grand-chose à l'actualité de ce roman qui aurait aussi bien pu avoir été publié avant-hier. Une œuvre monstre à la mauvaise réputation, entre illisibilité, érudition et obscénité. Comment le lire ? C'est parti pour une traversée.
Before that arrogant admonition, he would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law. Raven in the language of the outlaw.
Et on entend la voix de James Joyce lire le chapitre 7 d'Ulysse, un enregistrement de 1924, enregistrement audio, soit 2 ans après la publication de son roman Ulysse. Bonjour Philippe Forest, vous êtes romancier, vous republiez en janvier un texte qui s'appelle Beaucoup de jours aux éditions Gallimard, d'après Ulysse de Joyce. Et avec vous, on va parcourir ce grand roman de Joyce qui est réputé illisible, je le disais en introduction. Au début de votre livre Beaucoup de jours, vous essayez de vous rappeler de votre première lecture d'Ulysse et à ce moment-là, votre mémoire se trouble. Pourquoi ?
Parce que c'est une lecture très ancienne, j'ai dû lire Ulysse quand j'étais adolescent sans rien y comprendre, bien sûr. Et puis je suis revenu très très souvent à ce livre par la suite, jusqu'à cet essai donc dont nous allons parler aujourd'hui, qui a été publié pour la première fois il y a 10 ans. Ce qui est intéressant quand on reprend un livre aussi important, c'est que on change, on n'est plus le même lecteur bien sûr à 16 ans, à 30 ans, à 40 ans, bientôt à 60 ans. Et c'est un exercice tout à fait intéressant que de redécouvrir les grands classiques en voyant l'effet que le temps a produit sur le lecteur que l'on est. C'était un peu le pari de cette expérience que j'ai menée avec ce livre.
Vous avez retouché beaucoup le texte en 10 ans ?
Non, j'ai juste ajouté une préface pour expliquer un peu le contexte dans lequel avait été conçu le livre et pour ajouter quelques remarques un peu personnelles. Mais pour ce qui est du corps du texte lui-même, il n'a pas bougé du tout.
C'était pas l'idée, c'était pas de créer un mode d'emploi pour lire Ulysse, c'était quoi ? C'était une invitation à la lecture ?
Le livre a d'abord paru dans une collection qui s'appelait Le Livre La Vie aux éditions Cécile Defaux à Nantes. Éditions qui ont malheureusement disparu dans des circonstances un peu tristes. Et donc, du coup, tous les livres au catalogue, et notamment les miens, ont cessé d'être disponibles. Mais j'avais à cœur que le livre soit à nouveau présent dans les librairies à l'occasion du centenaire. Et le principe donc de cette collection, qui s'intitulait Le Livre La Vie, c'était de demander à un écrivain d'aujourd'hui, naturellement, de se plonger dans la lecture d'un grand livre du passé, et pendant un an de tenir une sorte de journal personnel de cette lecture, de cette découverte, de cette redécouverte. Alors j'ai pas exactement été fidèle au protocole tel que je viens de le présenter, tel qu'il avait été défini, mais le livre, quand on le lit, on s'aperçoit qu'il est construit de la manière suivante. C'est à la fois un guide pour la lecture d'Ulysse, et comme c'est un livre qu'on dit très compliqué, et même illisible. J'ai voulu que ce guide soit le plus simple possible, le plus lisible possible, mais en même temps, il s'agissait de donner un point de vue un peu personnel sur cet ouvrage, et donc il y a toute une série de digressions, de rêveries qui apparentent cet essai aussi au roman que par ailleurs j'ai écrit. Donc voilà, c'est un livre double en quelque sorte, mais qui fonctionne d'abord et avant tout, c'était mon intention, comme une aide à la lecture de ce grand roman un peu oublié aujourd'hui, dédaigné parfois, critiqué en tout cas, qu'est l'Ulysse de Joyce.
C'était une réaction, oui, par rapport à cette critique et ce dédain un peu que vous ressentiez à l'époque?
Oui, je crois que les choses se sont encore aggravées en 10 ans. C'est-à-dire, il y a un petit jeu que je trouve particulièrement stupide, mais auquel certains journalistes aiment particulièrement jouer, qui consiste à demander à des écrivains d'aujourd'hui, donc, quels sont, à leurs yeux, les faux chefs-d'œuvre par excellence, les livres surestimés, surévalués. Et vous remarquerez que, à ce petit jeu-là, c'est toujours Ulysse qui gagne ou qui perd. C'est un livre qu'on considère comme tout à fait, dans la réputation, est considéré comme tout à fait usurpé. Bon, ça n'est pas mon point de vue, et c'est le point de vue inverse donc que j'essaye de défendre dans cet ouvrage.
Eh bien, j'ai rencontré Joyce en 1920 chez André Speer, et c'était Ezra Pound qui l'y avait amené, et Adrienne Monnier m'avait amené là, alors nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Alors, il s'est intéressé beaucoup à ma petite librairie qui s'appelait Shakespeare and Company, et il est venu tout de suite me voir. Alors, il m'a raconté qu'il était très ennuyé parce qu'en Amérique, on était en train de supprimer son Ulysse. Et ça paraissait dans une little review, et on avait supprimé 4 fois, et finalement, on avait traîné devant le tribunal les éditrices. Alors, j'ai entrepris de faire paraître Ulysse en France, mais naturellement en anglais. Alors ça a fait une grande sensation, j'ai tiré 1000 exemplaires et ça a été tout souscrit avant, mais Joyce avait dit « Oh, personne n'achètera cet ennuyeux livre ».
Est-ce qu'il y a des Anglais qui sont venus en France pour acheter le livre d'Ulysse?
Mais naturellement, comme c'était défendu, alors tous ils amenaient un exemplaire d'Ulysse dans leur bagage, et clandestinement, naturellement.
C'est la voix de la libraire Sylvia Beach, propriétaire de la librairie Shakespeare et Compagnie à Paris, qui évoque ses souvenirs de Joyce et d'Ulysse. C'est en 1940, l'archive date de 1949, et on entend cette double réception, j'ai envie de dire, d'Ulysse, qui est décrit par lui-même, par l'auteur lui-même, comme un ennuyeux livre dès le départ. Et on a l'impression que la réputation d'Ulysse, elle est double. C'est à la fois, on peut le décrire comme à la hauteur des grands romanciers du début du XXe siècle, comme Marcel Proust, et en même temps, ce que vous disiez, Philippe Forest, c'est-à-dire... une œuvre aussi qui est assez conspuée. Comment comprendre cette double réputation?
Elle l'est conspuée parce que on a voulu faire de Joyce, notamment du côté de certaines des grandes avant-gardes littéraires du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, un livre qui vaudrait surtout par l'exercice théorique de réflexion sur la littérature qu'il proposerait. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Hein. C'est aussi un livre sur la littérature, notamment dans le chapitre consacré à Shakespeare, qui met en scène le petit discours que prononce Stephen Dedalus à propos de Hamlet. Donc il y a cette dimension-là, cette dimension théorisante, qui peut être aussi terrorisante, cette dimension intellectuelle. Mais on masque, lorsque l'on dit cela, on masque aussi le fait que Ulysse, c'est un grand roman réaliste, issu d'une tradition ancienne, qui est celle du grand roman du 19e siècle, tel qu'il se trouve réinventé, c'est vrai, au même moment par Proust et par Joyce. Donc il faut oublier un peu un certain nombre de discours théoriques qui se sont servis d'Ulysse pour redécouvrir le livre dans sa vérité. Et c'est une vérité qui est éminemment romanesque, voilà.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que souvent on affronte Ulysse de Joyce avec des préjugés dans la tête et des préjugés qui prêtent une intellectualité, ce qui est assez étrange d'ailleurs comme manière d'aborder une œuvre.
Oui, donc ce que tout le monde sait d'Ulysse, et même les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est qu'il s'agit donc de la transposition au XXe siècle, au début du XXe siècle, de l'Odyssée d'Homère. Donc il y a une grille mythologique qui existe et qui a été fournie par Joyce lui-même à ses premiers lecteurs, et sur laquelle on a beaucoup médité, réfléchi, notamment après T.S. Eliot, qui a consacré un article très important à ce qu'il a appelé la méthode mythique de James Joyce dans Ulysse. Donc cette grille homérique, cette grille mythologique, elle devient une sorte de panneau ou d'écran derrière lequel le livre lui-même disparaît. Et comme je le disais, c'est bien dommage.
Parce que c'est étonnant, quand on lit Ulysse de Joyce, on n'aurait pas du tout le sentiment de lire, au premier abord en tout cas, une réécriture d'Homère. C'est quelque chose qu'il faut décrypter.
Oui, et je crois que c'était Gérard Genette qui disait que si Ulysse de Joyce ne s'était pas appelé Ulysse, enfin bon, avec des si, comme on sait, très Paris en bouteille, eh bien si Ulysse de Joyce ne s'était pas appelé Ulysse, sans doute personne n'aurait deviné que ce roman constitue d'une certaine manière effectivement la réécriture de l'Odyssée d'Homère. Joyce a fourni un certain nombre de clés, il le dit, il joue d'ailleurs avec cette expression. La clé, elle est dans la serrure, dit-il. Eh bien, Joyce a fourni un certain nombre de clés qui sont un peu des passe-partout, mais qui servent surtout à ouvrir des portes qui ne donnent pas sur grand-chose. En tout cas, pas sur l'essentiel. Donc, il faut oublier un petit peu toute cette...
La bibliothèque.
Toute la bibliothèque. Il faut l'oublier un petit peu pour mieux y revenir après et pour ne pas se priver du plaisir de lecture que l'Ulysse de Joyce est susceptible de fournir encore aujourd'hui.
L'autre chose qui est étonnante, c'est qu'il y a cette réputation de complexité, alors que le résumé d'Ulysse de Joyce est apparemment très très simple. Quel résumé on pourrait en faire, justement?
Tout se passe en une journée, le 16 juin 1904, en un lieu qui est la ville de Dublin et ses environs, disons. Et c'est l'histoire d'un homme qui quitte sa maison le matin, il s'appelle Léopold Bloom, pour y revenir tard dans la nuit suivante, après avoir vécu toute une série d'épisodes qui sont le plus souvent très anecdotiques et banales. Voilà, c'est ça l'histoire d'Ulysse de Joyce. Une journée, en un lieu qui est Dublin, avec une histoire qui est celle que je viens de dire et qui contient toutes les autres.
Ça qui est paradoxal aussi, c'est qu'on le décrit comme un roman d'avant-garde, et en même temps, ça conserve une unité de lieu, une unité de temps, donc presque des principes qu'on pourrait dire aristotéliciens, enfin les principes d'Aristote de la tragédie. Et il y a un jeu aussi très compliqué, qui est particulier chez Joyce en tout cas, de mélange entre des références tout à fait classiques et une forme d'avant-garde. C'est ça aussi qui trouble un peu la lecture.
Et qui est très intéressant, parce que Joyce était effectivement un grand lecteur d'Aristote. Il y a certains des lecteurs de Joyce qui ont prêté attention à cette culture-là. Je pense notamment à quelqu'un comme Umberto Eco. Mais les références à Aristote sont très nombreuses dans l'Ulysse de Joyce. Joyce se réclame d'Aristote plutôt que de Platon, parce que justement, il se veut un matérialiste, ou en tout cas un réaliste. Et il mobilise donc des références philosophiques très anciennes et très classiques, mais pour les faire jouer avec un texte qui, à certains égards, est très moderne, notamment par l'attention qu'il prête aux profondeurs de la psyché, avec l'usage, notamment, je pense qu'on en parlera, du monologue intérieur. Donc il y a ce croisement entre des références très classiques et une poétique du roman très très moderne, qui produit des effets qui mettent Joyce un peu à part des autres grands écrivains modernistes dont il a été le contemporain. Notamment par cet attachement au réel qui est, à mon sens, essentiel.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que d'habitude, ce qui se passe avec les œuvres d'avant-garde, c'est qu'elles rentrent dans une espèce de processus d'acceptation par les gens. Enfin, c'est-à-dire le style nouveau finit par devenir une sorte de style, pas dominant, mais en tout cas accepté. Et on a l'impression qu'avec Ulysse, c'est comme si l'œuvre persistait dans son avant-garde, même un siècle après.
Oui, bon, en raison de certaines difficultés de lecture qu'il ne faut pas non plus ignorer tout à fait, mais moi, relisant donc il y a 10 ans pour la quatrième, cinquième fois, je ne sais pas, Ulysse de Joyce, j'ai plutôt été frappé par l'évidence de ce texte, et notamment de certaines des techniques que Joyce mobilise, ou même qu'il invente, et qui sont devenues, me semble-t-il, enfin qui devraient, me semble-t-il, ne plus poser de problème à un lecteur même moyennement cultivé. Parce qu'après tout, le monologue intérieur, ça n'est rien d'autre que ce qu'on appelle au cinéma la voix off. Et personne n'est surpris au cinéma que d'entendre la voix intérieure d'un personnage dont on voit le visage à l'écran. Bon, eh bien, en fait, c'est ce que Joyce fait dans l'usage qu'il propose du monologue intérieur dans son Ulysse. Donc tout ça devrait ne pas poser trop de problèmes, je crois.
On va entendre justement un passage. Sur le pas de la porte, il tâta sa poche de derrière à la recherche de la clé. Pas là, dans le pantalon que j'avais hier. Je dois la récupérer. La pomme de terre, je l'ai. L'armoire grince. Inutile de la déranger. Elle avait encore sommeil quand elle s'est retournée tout à l'heure. En sortant, il tira derrière lui la porte d'entrée très lentement. Un peu plus, jusqu'à ce que le rabat du jet d'eau vienne doucement recouvrir le seuil. Flasque couvercle. À l'air fermé. De toute façon, ça ira, jusqu'à ce que je revienne. Il traversa pour rejoindre le côté ensoleillé, évitant la trappe descellée de la cave du numéro 75. Le soleil se rapprochait du clocher de George's Church. Mais t'as vu qu'il va faire chaud. Particulièrement sensible avec ses vêtements noirs. Le noir conduit, reflète, réfracte, non, la chaleur. Mais je ne pourrais pas y aller avec ce costume clair. Ce serait comme aller à un pique-nique. Ses paupières s'abaissaient souvent doucement tandis qu'il marchait dans la tiédeur béate. La camionnette de Bolland, le boulanger, qui livre sur des plateaux notre quotidien. Mais elle préfère les miches d'hier, les chaussons croustillants à la croûte encore chaude. Vous donne l'impression d'être jeune. Quelque part en Orient, la pointe du jour. Se mettre en route à l'aube. Faire le tour de la terre en allant en avant du soleil. Lui ravir une journée. Toujours continuer ainsi. Ne jamais vieillir d'un jour. Techniquement. Philippe Forest vient de lire un extrait du début du chapitre 4 d'Ulysse, le chapitre Calypso, on entend le héros, donc Léopold Bloom. C'est le tout début de la journée, il franchit le seuil de sa porte et il entre dans la ville de Dublin pour aller acheter un petit déjeuner particulier puisqu'il s'agit d'un rognon. On entend donc cette simplicité de on est dans la pensée, on est dans les pensées, on entend les chemins de pensée de Bloom. C'est ça une des révolutions de Joyce, du style de Joyce.
Oui, enfin en tout cas c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les contemporains. Alors Joyce lui-même, peut-être par coquetterie, prétendait n'avoir pas inventé le monologue intérieur, mais avoir emprunté cette technique à un romancier français, symboliste, qui était à l'époque un peu oublié.
Oui, Édouard Dujardin, oui.
Voilà.
Oublié.
En tout cas, cette technique, elle va tout de suite faire des émules, hein, puisque si vous lisez Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, Le bruit et la fureur de Faulkner, par exemple, vous voyez très bien comment l'invention joycienne a proliféré et a trouvé des échos et des relais chez certains des très grands écrivains donc de langue anglaise des années 20 ou des années 30. Et puis, bon, bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, hein, il est évident que Claude Simon, peut-être via Faulkner, mais a été aussi à l'école de Joyce, notamment par l'usage donc de ce même monologue intérieur. Voilà. C'est une manière de faire rentrer le lecteur, apparemment, bien sûr, hein, c'est un artiste.
C'est une construction, oui, oui.
C'est une construction, oui. De donner, disons, plutôt au lecteur l'impression qu'il entre directement en contact avec les pensées de tel ou tel personnage.
Mais là où c'est très fort, c'est qu'on a l'impression de voir notre propre pensée se déployer, parce qu'elle peut le faire de cette manière. Quand on sort d'un immeuble, par exemple, on peut avoir des pensées le matin qui nous traversent et de nature très très différente, et on a l'impression de reconnaître ça en lisant Joyce.
Oui, il y a un effet de vérité qui d'ailleurs déplaisait beaucoup à André Breton, parce que il était soucieux qu'on ne confonde pas l'écriture automatique telle que lui la pratiquait avec le monologue intérieur, donc dont Joyce était devenu le prophète, le champion. Et ce qui déplaisait à Breton, c'était justement le caractère naturaliste, disait-il, de cette technique. Ça donne l'impression d'une pensée saisie sur le vif, dans les replis les plus intérieurs de la psyché humaine. Et donc du coup, on est du côté aussi d'une volonté de la part de Joyce de produire une image fidèle de cette espèce de tournoiement de pensée à demi formulée qui constitue notre quotidien. C'est très frappant dans le chapitre auquel je faisais allusion tout à l'heure, le chapitre dit de Carib de Silla, donc qui met en scène Stephen Dedalus prononçant une sorte d'exposé relatif au Hamlet de Shakespeare. Et donc il y a d'un côté cette parole un peu professorale, disons, qui est celle de Dedalus, donc expliquant Shakespeare, et tout ça est traversé et interrompu par les pensées intérieures qui occupent aussi l'orateur à mesure qu'il parle. Ce qui serait bien sûr quelque chose d'assez étonnant. Imaginons que toutes nos pensées s'expriment ainsi au grand jour, par exemple en ce moment.
Voilà. Ça donnerait un chaos, oui, ça donnerait quelque chose de...
Oui, ce serait très embarrassant.
ce qui est intéressant aussi, c'est ces personnages, justement. Donc là, il y a Léopold Bloom, on a le monologue intérieur de Léopold Bloom, et Stephen Dedalus, qui est en fait un autre personnage sur lequel Ulysse de Joyce s'ouvre. Et lui, c'est tout à fait différent. C'est vraiment la posture du poète qui intéresse Joyce à l'ouverture de ce roman.
Oui, disons qu'il y a trois personnages essentiellement concernés par cette technique du monologue intérieur. Léopold Bloom, Stephen Dedalus, et puis aussi, je dirais surtout, Molly Bloom, puisque le sommet du roman, c'est ce monologue intérieur par lequel le livre se conclut et qui nous fait pénétrer apparemment dans les pensées de cette femme à demi assoupie, ce qui est sans doute le morceau de bravoure d'Ulysse est aussi un des plus grands moments de la littérature romanesque du XXe siècle. Mais il n'y a pas que du monologue intérieur. Joyce avait à cœur, c'était aussi un des éléments qui rentrait dans cette construction un peu savante sur laquelle il a attiré l'attention des lecteurs. Joyce avait aussi l'intention de changer de style pratiquement avec chacun des chapitres de son livre. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de style de Joyce, mais il y a des styles de Joyce. Beckett disait un sweet new style, en jouant sur le dolce style nuovo de Dante, un sweet style, un style doux, mais et il écrivait au lieu de new, il écrivait une N-O-O, une sorte de style néant. Voilà, c'est ça le style de Joyce, c'est un style qui ne cesse de changer, de se transformer et de se métamorphoser avec chaque chapitre par lequel le roman recommence.
C'est peut-être ça qui en rend la lecture difficile aussi, c'est cette espèce de désarçonnement que ça peut procurer de pas le reconnaître, de pas reconnaître un auteur peut-être.
Oui, bien sûr, mais c'est un livre dans lequel il faut accepter de s'égarer. Hein. La figure du labyrinthe est essentielle chez Joyce. C'est pas un hasard si l'un des personnages du roman, qui était le double de Joyce lui-même dans son livre précédent, Le portrait de l'artiste, c'est pas un hasard si ce personnage s'appelle Dédalus.
Hein. Le Dédale.
Le Dédale, voilà. Dublin est un labyrinthe dans lequel il faut accepter de se perdre, tout comme il faut accepter de se perdre dans Ulysse, mais il n'y a rien de plus important en littérature que de prendre le risque de l'égarement. Rien n'est plus sinistre qu'un roman dans lequel on a tout deviné de ce qui va advenir, passer la première page ou le premier chapitre. Au moins, avec Ulysse, on est dans une perte de repères qui permet d'accéder à ce vertige qui est quand même l'essentiel de ce que nous devons demander à la littérature, à mon avis.
On n'a pas dit aussi, on n'a pas précisé le choix de la date, le 16 juin 1904. Pour l'intrigue de Ulysse, j'ignorais absolument et je l'ai appris dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter le choix de cette date?
C'est la date du jour où Joyce a fait, disons, la rencontre amoureuse de celle qui allait devenir son épouse, Nora, et qui est d'une certaine manière le modèle de Molly Bloom. Alors de tout cela, il n'est absolument pas question dans Ulysse, à aucun moment, même si le roman a une dimension autobiographique, mais à aucun moment il n'est question directement de Joyce et encore moins donc de cette rencontre que malgré tout le romancier veut en quelque sorte célébrer à travers ce livre. Et il y est parvenu d'une manière assez étonnante, parce que maintenant, tous les 16 juin, paraît-il, à Dublin, on célèbre le livre à l'occasion de festivités qui sont les festivités du Bloomsday, voilà. le jour de Bloom. Voilà. Ça n'est pas rien que de faire rentrer dans le calendrier une date à laquelle on est ainsi sentimentalement attaché, la date de la première rencontre donc avec la femme avec laquelle on va partager sa vie.
C'est aussi la rencontre d'un homme et d'une ville, enfin d'un auteur et de sa ville.
Oui, encore que Joyce a vécu l'essentiel de sa vie en exil. Hein. La devise de Dédalus, c'est le silence, l'exil et la ruse. L'exil est tout à fait essentiel. Hein. Joyce a vécu en Italie, en Suisse, en France. N'oublions pas que c'est à Paris donc que Ulysse a été publié. C'est à Paris que l'essentiel de Finnegan's Wake a été écrit. Donc c'est dans le lointain de l'exil ou depuis le lointain de l'exil que Joyce considère la ville où il a vécu son enfance et son adolescence et la patrie qu'il a choisi de quitter. L'Irlande, la truie qui dévore sa portée, les relations de Joyce à sa terre natale sont tout à fait ambivalentes. Il y a un hommage qui est bien sûr rendu à cette patrie qu'il a quittée, mais avec une dimension très très critique et satirique qui fait que certains Irlandais ne partagent peut-être pas le culte pour Joyce qui est celui de certains auteurs ou lecteurs français.
Chère mademoiselle Weaver, une femme d'ici a fait circuler le bruit que je suis extrêmement paresseux et ne ferai ni ne terminerai jamais rien. J'ai dû, d'après mes calculs, passer près de 20 000 heures à écrire Ulysse. Un groupe de gens de Zurich se sont persuadés que je devenais graduellement fou et ont vraiment essayé de me décider à entrer dans une clinique où un certain docteur Jung, le bonnet blanc suisse à ne pas confondre avec le blanc bonnet viennois, le docteur Freud, s'amuse aux dépens, dans tous les sens du terme, de dames et messieurs qui souffrent d'araignées au plafond. On croit aussi que je suis un type dans le genre d'Ulysse, sournois, simulateur et dissimulé, un aride jésuite, égoïste et cynique. C'est sans doute un peu vrai, mais ce n'est nullement tout ce que je suis, pas plus qu'Ulysse, et j'ai pris l'habitude de me servir de cette prétendue manière d'être pour sauvegarder mes pauvres créations. Voici un exemple de mon inanité. Je n'ai pas lu d'œuvre littéraire depuis plusieurs années. Ma tête est pleine de cailloux, de gravats, d'allumettes brisées, de verres ramassés un peu partout. La tâche que je me suis fixée, techniquement, d'écrire un livre de 18 points de vue différents, en autant de styles, tous apparemment inconnus ou inaperçus de mes confrères. Et la nature de la légende choisie suffirait à troubler l'équilibre mental de n'importe qui. Je veux terminer le livre et essayer d'arranger, d'une façon ou d'une autre, mes affaires matérielles embrouillées.
C'est la voix de la comédienne Edith Cobb qui lit une lettre de Joyce, datée du 24 juin 1921, où il parle de sa fièvre de l'écriture, et de surtout des nombreuses heures qu'il a consacrées à l'écriture d'Ulysse. Et vous insistez beaucoup, Philippe Forest, sur la question du temps et de la durée. Est-ce que lire Ulysse, c'est aussi faire une expérience de la durée, fatalement ?
Certainement, parce qu'il y a, d'où la citation de Montaigne que j'ai placée en tête de mon essai, il y a cette idée que tout le temps de l'histoire peut se trouver contenu en une seule journée. Il suffirait en quelque sorte, c'est ce que dit Montaigne, d'avoir vécu sept seules journées pour avoir vécu et épuisé tout le possible de l'existence humaine, l'infinie possibilité des possibles, comme le dit souvent Joyce en citant approximativement Aristote. Donc c'est un travail, un calcul sur le temps. Le temps de sa vie, hein, parce qu'il y a une dimension, je le disais, autobiographique à ce roman aussi. Même si ça n'est pas, bien sûr, une autofiction au sens classique du terme, il y a une dimension autobiographique, donc c'est sa vie que Joyce raconte d'une certaine manière dans Ulysse. C'est aussi l'histoire de sa patrie, et c'est d'une certaine manière l'histoire de l'humanité tout entière. Il y a d'ailleurs un chapitre qui est consacré dans Ulysse à cette question du temps et de l'histoire. C'est le troisième, celui qui met en scène la rencontre entre Dédalus et le directeur de l'école pour laquelle ce jeune homme travaille comme enseignant. Voilà une réflexion sur la fabulation des filles de la mémoire, dit Joyce en citant William Blake.
Et c'est l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites un moment dans le livre que, comme tous les grands romans, il apparaît aussi Ulysse comme un roman à clé, et que vous écrivez en tout cas l'avoir cherché, cette idée qui est le secret du monde caché dans un mot, ou dans un mot en tout cas, que c'est une idée qui est globalement fausse, mais on y revient toujours. Est-ce que c'est un des moteurs de la lecture ?
À mon sens, oui. On attend du livre que l'on lit qu'il vous découvre la vérité en quête de laquelle vous vous êtes mis, mais il faut que cette quête soit déçue pour que elle puisse perpétuellement recommencer. Or, il y a dans Ulysse un jeu que l'auteur joue avec le lecteur en lui proposant des révélations successives qui vont permettre au récit d'avancer jusqu'à ce grand final qu'on évoquait tout à l'heure, le monologue de Molly Bloom. Bon, il y a quelque chose à quoi j'ai été très attentif, et je ne suis pas le seul, mais c'est une question qui ne cesse de hanter l'esprit de Stephen Dédalus, le jeune poète, donc tandis qu'il se promène sur la plage dans les environs de Dublin, c'est le grand monologue intérieur du chapitre 3. Cette question, c'est quel est ce mot que tous les hommes savent ? Comme s'il y avait une vérité que chacun d'entre nous ignore, tout en étant convaincu que tous les autres la savent. Et lorsque dans le chapitre intitulé Circé, qui est le chapitre le plus fantastique du roman, à la faveur de l'une des hallucinations qui le visite, Stephen Dédalus se retrouve confronté au fantôme de sa mère, c'est à nouveau cette question qui revient sur ses lèvres. Il dit « Mère, maintenant que tu es morte, maintenant que tu le sais, dis-moi quel est ce mot que tous les hommes savent ?» Et Joyce avait donné la réponse à cette devinette, dans l'une des versions de son roman. Ce mot, c'est tout simplement le mot amour. Mais il a choisi de supprimer
la réponse
pour que la quête puisse se perpétuer avec chacun des lecteurs. Moi, mon hypothèse, c'est plutôt que ce mot que tous les hommes savent, mais ça n'est pas en contradiction avec la référence que j'ai faite précédemment à cette phrase ôtée par Joyce. La réponse, c'est plutôt le mot par lequel le roman se termine. Yes, I will. Yes, oui. Hein, c'est ce grand mot d'affirmation, d'assentiment à la vie et au désir que Joyce choisit de mettre non pas dans la bouche de Bloom, pas même dans la bouche du poète Dédalus, mais dans la bouche de cette femme qui est à demi endormie et qui sans doute une fois réveillée ne se rappellera pas qu'elle a prononcé ce mot qui peut-être est celui que chacun d'entre nous recherche.
Ce qu'on entendait aussi dans la lettre lue par Edith Scobb, c'est une référence à la psychanalyse avec Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, c'est assez drôle, Freud, à savoir Freud et Jung. Est-ce que la psychanalyse, ça peut représenter aussi un écueil de la lecture parmi les multiples savoirs dont Ulysse est porteur ?
Les psychanalystes, certains psychanalystes en tout cas, se sont beaucoup intéressés à ce livre. L'exemple le plus important pour nous en France, c'est l'exemple de Jacques Lacan, qui a consacré quand même l'un de ses séminaires à Joyce. Mais alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, Lacan cite peu Ulysse, et il fait du Lacan à partir de Joyce, disons. Mmh. Et c'est très intéressant, mais plus parce que cela nous apprend de Lacan que parce que cela nous apprendrait peut-être de Joyce. Il y a une sorte d'arraisonnement, bien sûr, par le discours théorique des grands chefs-d'œuvre de la littérature. C'est un peu ce qui s'est passé, me semble-t-il, avec les nombreuses lectures psychanalytiques qui ont été proposées de l'œuvre de Joyce. Encore qu'il y ait des choses tout à fait remarquables, bien sûr, et passionnantes et très subtiles de ce côté-là aussi. Mais Joyce était un peu méfiant, c'est vrai, à l'égard de la psychanalyse. En même temps, quand vous lisez, je reviens toujours à ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre essentiel, lorsque vous lisez donc le chapitre dans lequel Dédalus propose son interprétation personnelle du Hamlet de Shakespeare, on voit bien que la conception que Joyce défend de la littérature le place sur un terrain qui n'est pas si éloigné et pas non plus incompatible avec la lecture freudienne qui est en train de s'élaborer des grandes œuvres de la littérature à peu près à la même époque.
Ce qu'il y a de particulier aussi dans ce roman à plusieurs styles et donc à 18 points de vue, donc 18 chapitres, c'est la question de l'unité du chapitre, en fait. On a l'impression que le chapitre, c'est quelque chose d'important, en tout cas chez Joyce, la structure.
C'est vraiment l'unité de base, je crois que vous avez raison. En fait, ce sont des épisodes. Joyce a prétendu, mais est-ce vrai ou faux, peu importe d'ailleurs, qu'il s'était moins inspiré de l'Odyssée d'Homère que d'un livre pour enfants qui présentait d'une manière pédagogique cette histoire à l'intention des tout-petits. Donc, faut pas oublier que c'est une histoire de quête, hein. C'est un personnage, un héros, aussi bien Ulysse chez Homer que Bloom chez Joyce, qui est confronté à une série d'épreuves dont il doit triompher. Mmh. Donc, chaque chapitre est le lieu d'une de ces épreuves successives. Bloom doit résister à la frayeur ou à l'angoisse qui s'empare de lui lorsqu'il assiste aux funérailles de l'un de ses amis, et c'est l'équivalent moderne donc de la fameuse scène de l'évocation des morts par Ulysse dans l'Odyssée. Même chose, l'affrontement avec le Cyclope devient la rixe, si on peut dire, qui oppose Bloom à un patriote irlandais dans un pub de Dublin. Voilà. À chaque épisode du roman correspond à un chapitre, et chaque chapitre du roman est le lieu de cette épreuve dont l'un ou l'autre des deux héros doit triompher pour que le roman puisse continuer et que Bloom puisse rentrer auprès de sa peu fidèle Pénélope.
Est-ce qu'il y a une importance pour vous de l'action au sens de l'intrigue, ou est-ce qu'elle est complètement secondaire dans Ulysse? Est-ce qu'il faut le lire en gardant l'intrigue de manière secondaire?
Non, je pense que c'est aussi un roman pourvu d'une intrigue, même si les digressions sont effectivement très très nombreuses. L'intrigue, elle est celle-là. Bloom est chassé de chez lui parce qu'il soupçonne, à juste titre, que sa femme, donc Nora, va recevoir dans l'après-midi son amant. Et il est contraint donc à la fuite, et il s'agit pour lui de rentrer chez lui. Et c'est un peu le souci de chacun d'entre nous, je crois, d'une manière ou d'une autre, de savoir s'il est possible de rentrer chez soi et de renouer un commerce qui ne soit pas trop terrible et destructeur avec la vie. C'est la quête dans laquelle tous les héros de la littérature depuis les origines doivent s'engager pour triompher de toutes les menaces qui nous guettent, que ces menaces prennent des formes héroïques et merveilleuses comme dans la poésie épique, ou des formes plus triviales, voire plus ridicules, comme c'est le plus souvent le cas pour chacun d'entre nous dans la vie moderne.
C'est ça, c'est pas parce que c'est trivial que c'est pas important, ce qui se passe.
Il y a un pari pris sur le trivial, c'est sûr. Un pari pris sur le trivial qui apparente le roman à la comédie, au boulevard, au vaudeville. Mais tout ça fait partie de notre existence à chacun d'entre nous. C'est la vieille idée qui a été défendue par beaucoup de théoriciens, mais qui n'en est pas moins juste, hein, que le roman est la forme bourgeoise et moderne de l'épopée. Donc tout ce qui se vivait autrefois sur le mode héroïque et épique se vit désormais sur le mode d'un réalisme romanesque qui oblige effectivement à prendre en compte l'existence dans ce qu'elle peut avoir de plus banal, de plus trivial, oui. C'est pour ça qu'on suit.
Ah, pardon.
Non, je...
Allez-y. On allait lancer une chanson et vous avez... Allez-y, finissez votre phrase.
La musique.
La musique.
France Culture, sans oser le demander, Romain de Bec de Lièvre. Well, I sit in here, sound of my footsteps, and a voice say hi, so what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next door?
No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows it.
De son Ulysse, Joyce n'aurait pu compter sur 100 lecteurs.
Il y a dans tout ce qui est humain un fond obscène, un revers divin. Je vous avoue que l'impudeur de Joyce me ravit. Trop nombreux sont les Dagobert qui préfèrent garder leur culotte à l'envers par grande crainte, en la remettant à l'endroit, de montrer un instant leur derrière.
Joyce ne remet à l'endroit rien du tout. En un temps où nous avons besoin de confiance, il nous invite à ne plus rien prendre au sérieux. Et cela dans la façon la plus perfide. Car sa fronde est dirigée. Gillet nous l'explique fort bien, non tant contre les institutions et les mœurs que simplement contre les formes du langage. Non point contre les pensées et les sentiments que contre l'expression de ceux-ci.
Qui nous dupe plus que chose au monde, en déchirant le revêtement et l'apparence, Joyce met à nu de la réalité.
C'est beaucoup lui prêter.
Les voix de Michel Bouquet et Pierre Delbon, les comédiens, c'est une fiction en 1966, c'est une adaptation des interviews imaginaires d'André Gide à propos de James Joyce, qu'on entend, Philippe Forest, où il soulève là une question qui est assez épineuse, c'est la question de l'obscénité, qui est finalement assez présente dans Joyce et vous, dans Ulysse de Joyce, et vous consacrez tout un chapitre dans votre texte, dans votre livre Beaucoup de jours, à cette question, à savoir que Joyce ne se prive pas de convoquer ce qu'on appelle le bas corporel, c'est-à-dire les triples, les excréments, les rognons, et c'est quelque chose qui a pu choquer.
Oui, oui, il y a clairement une dimension scatologique dans le roman qui peut effectivement choquer, et qu'on peut, si on veut traiter de la chose de manière un peu plus distanciée, voire pédante, rapporter à tout ce qui a été écrit par Bakhtine, notamment sur le carnavalesque, sur l'œuvre de Rabelais. Joyce est très certainement un héritier de cette tradition qui est illustrée chez nous, particulièrement donc par l'auteur de Gargantua et de Pantagruel. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette obscénité-là, Joyce la mobilise pour retourner en quelque sorte la littérature contre elle-même. C'est une manière de tourner en dérision la littérature et de ne pas tomber dans le piège d'une sacralisation excessive. Bloom, pour dire les choses concrètement, se torche le derrière avec la page imprimée d'un roman sans doute de seconde zone, et c'est une manière pour Joyce sans doute de montrer comment la vraie littérature n'est authentiquement elle-même que si elle est susceptible, si elle est capable de se moquer aussi de la littérature. Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse chez Joyce à ce titre-là, parce que il est important, me semble-t-il, c'est une formule d'ailleurs de Gide, hein, qu'un roman contienne aussi, d'une certaine manière, sa propre négation, de manière à ne pas tomber dans ce piège de l'esthétisation, de la sacralisation, dans lequel beaucoup d'autres écrivains, et même les plus grands, je pense à Proust, sont parfois tombés.
Oui, justement. Et là, par rapport à Proust, c'est drôle parce que c'est souvent ce binôme qui sort sur le début du XXe siècle de la littérature, souvent Proust et Joyce. Mais alors en ça, ils sont radicalement différents.
Oui, bon, il y a une anecdote qui est assez célèbre sur laquelle je n'ai pas écrit dans le livre, mais sur laquelle il m'est arrivé d'écrire par ailleurs. Joyce et Proust se sont rencontrés une fois, peu de temps avant la mort de Proust, dans une sorte de soirée mondaine où visiblement ils n'ont pas eu grand-chose à se dire, ce qui prouve bien que les deux plus grands écrivains de la littérature de l'époque avaient à cœur de parler ensemble d'autre chose peut-être que de littérature. Sans doute d'ailleurs ne s'étaient-ils pas lus. Proust n'avait certainement pas lu le peu qu'il aurait été capable de lire de Joyce à l'époque. Et Joyce, comme il le dit d'ailleurs dans la lettre dont on a entendu un extrait tout à l'heure, Joyce avait cessé de lire, prétendait-il, ses contemporains. Cela dit, il y a quand même quelques petites références à Proust qu'on trouve plus tard dans Finnegan's Wake. Mais moi, je ne veux pas opposer Proust à Joyce ou Joyce à Proust. Ça n'aurait pas grand sens. Mais effectivement, il y a un côté, disons, Oui, moins susceptible de récupération littéraire et esthétisante chez Joyce que chez Proust. Joyce disait que Proust s'intéressait aux marquises et que lui s'intéressait plutôt aux femmes de chambre. Bon, c'est une manière plus plaisante de dire la même chose.
Après, ce qui est drôle et ce qui est pointé dans le texte de Gide, c'est l'invitation que pourrait nous faire Joyce à ne littéralement rien prendre au sérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'une tentation de ça dans Ulysse, d'une forme de nihilisme?
Ben franchement, moi je ne vois pas très bien sur quoi on peut se fonder pour poser un tel jugement. Même si Joyce tourne en dérision, comme je viens de le rappeler, la littérature et l'art, il prend bien sûr très au sérieux l'entreprise dans laquelle il s'est engagé. Et Ulysse est aussi un livre qui parle de choses très 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 humaines qui n'ont rien à voir avec ce prétendu nihilisme philosophique. C'est un livre qui fait l'éloge de l'amour, de la fidélité, de l'attention à autrui, enfin toutes sortes de choses dont je vois mal en quoi on pourrait les qualifier de nihilistes. Même sur le terrain politique, il y a une conscience politique chez Joyce, même si elle prend un tour parfois un peu paradoxal, qui fait de lui, à mon avis, un écrivain authentiquement démocrate, en tout cas quelqu'un de très opposé à toutes les formes de cynisme et de nihilisme dans lesquels d'autres écrivains contemporains sont eux tombés.
Oui, des années 20 et allègrement. Oui.
Oui.
Chez Malinati, titre, Nestor, heure, 9h-10h, couleur, marron, personnage, Nestor, Télémaque, Pisistrate, Hélène. Technique, dialogue à deux personnes, narration soliloque. Science, art, histoire. Sens, signification, la sagesse du monde ancien. Organe, symbole, Ulster, femme, sens commun.
C'est à nouveau la voix de la comédienne Edith Scobb qui lit cette fois ce qu'on a appelé le schéma Linati. C'est un schéma qui a été envoyé par Joyce à son ami Carlo Linati. Un schéma qui accompagne les différents chapitres d'Ulysse. Il n'y a pas beaucoup plus d'explications. C'est un schéma qui est assez poétique et qui, dans chaque chapitre, fait correspondre un certain nombre d'éléments, donc une couleur, une discipline, et de beaucoup d'éléments comme ça. Comme une espèce de carte pour lire le livre et comme si le livre avait besoin de cartes qui l'accompagnent. Comment vous interprétez ce geste, de ce schéma en tout cas, Philippe Forest?
C'est un peu comme la matrice du livre, effectivement, et ça rattache Joyce à un rêve que beaucoup d'autres écrivains ou artistes ont partagé, qui est le rêve de l'œuvre totale. Un livre dans lequel toutes les formes d'expression littéraire, toutes les disciplines du savoir, mais également tous les organes du corps humain, tout ça serait intégré donc à l'intérieur de cette machine dont le schéma dont vous parlez constitue, la matrice en quelque sorte. Mais bon, tout ça est très très important, très intéressant. Mais d'abord, on sait que ce schéma, il n'est intervenu que relativement tardivement dans la conception du livre. Donc c'est pas comme si Joyce avait eu d'abord le schéma en tête.
Oui, c'est pas un mode d'emploi.
Voilà, exactement. Il y a eu une sorte de jeu un peu dialectique entre l'écriture du roman et cette formalisation dont Joyce s'est servi un peu, à mon avis, comme de la poudre aux yeux qu'il a jeté à l'intention de certains de ses lecteurs. Il faut pas surestimer, je dirais, l'importance de ce schéma, même si bien sûr il compte aussi et il est utile pour comprendre certains des détails de l'intrigue.
Il a presque une dimension comique aussi. Enfin, moi, j'ai pensé, c'est un délire encyclopédique à la Bouvard et Pécuchet, presque. Enfin.
Ah oui, mais Joyce est un grand lecteur de Flaubert, et donc il y a quelque chose de très flaubertien dans l'inspiration de Joyce. Mais disons que Joyce, peut-être qu'il n'est pas exclu que Joyce se moque un peu de nous en nous mettant sous le nez ce schéma auquel certains lecteurs accordent peut-être un peu trop d'importance. Voilà.
On sait si Joyce était quelqu'un qui, parce que de ce qu'on entend depuis le début de l'émission, c'est, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la méfiance envers les lecteurs, ou je ne sais pas si c'est un bon terme, la méfiance, mais en tout cas quelque chose de l'ordre du jeu. Et d'une conscience, en tout cas, de son statut et de la relation au lecteur.
Ah oui, c'est un jeu qu'il joue avec ses lecteurs. Et bien sûr, il est très avide qu'on lui témoigne de l'admiration qu'il mérite. Mais il prend soin aussi de tourner en dérision le personnage qu'il est devenu aux yeux de certains de ses admirateurs. Il y a une anecdote que je raconte dans le livre que je trouve assez plaisante et qui permet de renouer avec les remarques précédentes concernant la manière dont Joyce utilise l'obscène pour tourner en dérision la littérature et l'art. C'est une dame qui vient voir Joyce et qui, quelques années après l'apparition d'Ulysse, et qui lui dit « Maître, puis-je baiser la main qui écrivit Ulysse ?» Et Joyce lui répond « Si vous voulez, madame, mais je dois vous prévenir, elle a fait beaucoup d'autres choses depuis.
Voilà. » Oui, ce qui résume assez bien le...
C'est très joyeusien, c'est très joyeusien.
Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a une... C'est une question qui me vient immédiatement. Là. Le public français aussi particulièrement est peut-être un peu réfractaire à ce type d'humour qui est plus facile chez les anglo-saxons.
Peut-être, ouais. C'est possible, oui. Je sais pas. Il y a aussi un humour... Alors, attention, parce que Joyce n'était pas anglais, il était irlandais.
Oui, irlandais, bien sûr.
De grands humoristes irlandais aussi. Il y a surtout toute cette tradition irlandaise, qui est la tradition du limerick, du non-sens, dont on va retrouver les effets dans le roman suivant de Joyce, Finnegan's Wake. Oui, oui, ce sont peut-être des choses qui sont plus difficiles à percevoir de ce côté-ci de la Manche.
Il lit et écrit en même temps. Il s'écrit des livres qu'il adresse à lui-même, comme s'il écrivait d'immenses lettres. Il s'écrit dans le texte et en même temps il se lit. Mais ce qui est très intéressant et ce sur quoi je m'étais donc arrêtée à l'époque et que j'avais donc appelé l'art du remplacement, c'est sa capacité de mettre en jeu la substitution sous toutes ses formes. Mais là, il faut dire que c'est généralisé. C'est pas simplement par exemple Bloom à la place d'Ulysse, parce que c'est pas vrai du tout. Ulysse, le livre qui s'appelle Ulysses et qui porte donc le nom qui fait référence à l'Odyssée, fait passer dans ses innombrables épisodes plus d'un Ulysse. Et la substitution, moi je m'amuse à dire que Joyce est un substitueur dans tous les sens du mot, c'est-à-dire c'est aussi un tueur de substituts. Hein. C'est-à-dire que chaque substitut est menacé ou poursuivi, ou au contraire courtisé par un autre substitut.
La voix d'Hélène Sixou, une archive de France Culture en 2004, qui parle de Joyce. Dans cette même archive, d'ailleurs, elle raconte qu'elle a fait sa thèse sur Joyce, ce que j'ignorais. Et Philippe Forest, vous rappelez dans votre livre, d'ailleurs, vous citez Hélène Sixou comme une des lectrices de
Joyce. Oui, bien sûr, sa thèse est magnifique. Elle porte plus sur le début de l'œuvre d'Ulysse que sur la partie la plus tardive. Mais c'est un ouvrage qui est absolument essentiel. D'ailleurs, Je cite d'autres écrivains qui sont ceux qui m'ont amené à lire Ulysse. Hein. La génération de ces auteurs qui ont écrit dans les années 60, 70. Donc il y a Hélène Sixou, il y a Philippe Solers, il y a Michel Butor et quelques autres. C'est pas du tout pour minorer l'importance des vrais Joyciens, des universitaires, des érudits, parce qu'il y a bien sûr des figures essentielles comme la figure de Jacques Aubert récemment disparue. Mais enfin, disons qu'il s'est trouvé un moment dans l'histoire de la littérature française, ce sont les années donc 60 et 70, où de grands écrivains d'alors, donc Sixou, Solers, Butor et quelques autres, ont pris au sérieux Ulysse et d'une manière plus générale l'œuvre de Joyce. Et malheureusement, si je me tourne vers mes collègues, mes camarades ou mes contemporains, je dois dire que je remarque peu de signes d'attention de cette importance, d'attention pour l'œuvre pourtant essentielle de Joyce chez les écrivains français d'aujourd'hui.
Elle insiste, Hélène Sixou, dans cette archive, oui, sur la question de Joyce substitueur. Et vous rappelez dans votre texte que Ulysse, c'est aussi un roman des identités multiples, des métamorphoses et des transformations, et qui creuse dans une veine depuis Ovid. Et vous rappelez notamment ce passage important qui est dans le chapitre Circé, où Bloom change de sexe.
Oui, c'est un passage qui doit intéresser tous les gens qui réfléchissent d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on appelle désormais les gender studies. Il y a une réflexion sur l'identité sexuée chez G. Joyce. Et on n'est pas du tout du côté de la revendication identitaire, mais au contraire, comme chez Proust, enfin comme chez tous les écrivains un peu sérieux, on est du côté d'un questionnement sur ces codes de l'identité sexuelle. Un questionnement poétique qui parvient sans doute à son paroxysme, oui, dans ce chapitre où l'on voit Bloom se métamorphoser en femme, ou encore dans ce chapitre final, une fois encore, hein, le monologue de Molly Bloom, où c'est une femme qui parle, mais qui parle avec les mots que un homme lui prête. On est vraiment au cœur de ce questionnement sur l'identité sexuée, mais en des termes très différents de ceux dont on fait souvent usage aujourd'hui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va puiser dans une forme très ancienne, oui, qui est la littérature antique, et en même temps réutiliser, réarmer dans quelque chose qui relève de l'avant-garde.
Oui, le chapitre Circé est sans doute le plus compliqué du livre, c'est le plus long,
ouais.
Et c'est un chapitre
qui prend une forme théâtrale.
Exactement, oui. Puisque Joyce avait donc ce projet de faire rentrer toute la littérature, toutes les formes de la littérature dans son roman. Donc il y a des chapitres qui sont plus romanesques, d'autres plus poétiques si on veut, d'autres plus philosophiques ou plus essayistiques. Et vous avez cette manière qu'il a de faire rentrer le théâtre à l'intérieur du roman pour que rien ne reste en quelque sorte à l'extérieur du projet qu'il conduit.
Pour finir cette émission, je voudrais citer un passage de votre texte que j'ai trouvé intéressant, c'est, je vous cite, « La patience des grands romans est infinie, ils attendent dans le silence que les lecteurs oublieux se rappellent qu'ils existent, et lorsque ceux-ci viennent vers eux, ils leur disent « telle est ta vie ». Ça n'a pas bougé ça depuis les 10 ans que vous avez écrit cette phrase ?
Non, je crois toujours. D'ailleurs, j'avais oublié cette phrase, mais elle est pratiquement identique à une autre phrase que j'ai écrite dans mon roman précédent, Je reste roi de mes chagrins, avec cette idée que l'œuvre d'art, elle est là, elle nous attend pour nous révéler notre vrai visage, alors même que nous n'étions pas préparés à une telle découverte ou à un tel face à face. Simplement. Le visage que l'on présente au livre change avec le temps, et c'est pour ça que ce miroir est aussi un miroir très cruel, parce qu'il renvoie à chacun d'entre nous une image de la façon dont le temps a passé sur lui et dont la vie l'a changé.
Merci beaucoup, Philippe Forest.
Merci à vous.
On invite évidemment tous les auditeurs à lire Ulysse de Joyce dans la traduction récente, donc qui avait été pilotée par Jacques Aubert, qu'on a évoqué, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Vous publiez donc Beaucoup de jours chez Gallimard d'après Ulysse de Joyce et un roman en janvier, Ping Chi. Merci aussi aux équipes de France Bleu Nantes, à Gilda Lebéon. C'était Sans oser le demander, une émission à réécouter, à télécharger en podcast sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture.